Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La RDC compte à ces jours plus de 900 partis politiques reconnus au niveau du ministère de l'Intérieur. Tous ces partis politiques en quoi leur leader ou autorité morale aspire à conquérir le pouvoir pour faire de la RDC un pays développé où il fait bon vivre. Cependant, une fois associés dans la gestion du pays, les leaders politiques sont loin de répondre aux préoccupations sociales des populations plutôt que de défendre l'intérêt général pour le bien-être de tous. Ces leaders rivalisent d'acteurs dans la corruption, le clientélisme, l'égoïsme et l'enrichissement sans cause. Pour de nombreux Congolais, seul un contrat social peut constituer de nos jours un outil de changement de gouvernance politique avec notamment de vrais programmes politiques qui répondent aux véritables attentes des Congolais. Que pensez-vous de la prolifération des partis politiques en RDC et du rôle que ces partis peuvent jouer dans les développements de la RDC? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en direct en composant les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de ce magazine coordonné et réalisé par Blaise Chindani. À la présentation, c'est Marcel Ngomombala. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42 502. 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. Différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et banane doublée au 323. Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502. 42 502. Uniquement pour les abonnés Vodacom.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. On va aborder cette question sur l'offre politique. On le sait, la RDC compte à ces jours en plus de 900 partis politiques reconnus au niveau du ministère de l'Intérieur. Et tous ces partis politiques, en quoi leur leader autorité morale aspire à conquérir le pouvoir pour faire de la RDC un pays développé où il fait bon vivre. Cependant, une fois dans la gestion des affaires du pays, les leaders politiques sont loin de répondre aux préoccupations sociales des populations plutôt que de défendre l'intérêt général pour le bien-être de tous. Ce leader rivalise d'acteurs dans la corruption, le clientélisme, l'égoïsme et l'enrichissement sans cause. Et pour de nombreux Congolais, seul un contrat social peut constituer de nos jours un outil des changements de gouvernance politique avec notamment des vrais programmes politiques qui répondent aux véritables attentes des Congolais. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs et merci à ceux également qui se sont déjà inscrits pour participer à ce magazine. Et pour commenter ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Christian Molika. Il est politologue et coordonnateur de politologues de la RDC. Il est également membre du réseau Pona Congo. Christian Molika, bonjour.
Bonjour.
C'est encore un plaisir de vous accueillir dans ce studio de Radio Okapi et plus précisément dans ce magazine Parole aux auditeurs. On va aborder cette question sur l'offre politique. On le sait, réseau Pona Congo a mené une enquête, une très vaste enquête avec à travers tous les pays pour essayer un peu des consultations populaires qui ont été intitulées Tolingi Congo, et tous les aspects de la vie au quotidien ont été abordés sur le leadership politique, sur la corruption, sur les processus électoraux. Et là, aujourd'hui, on va plus s'appesantir sur l'offre politique. On le sait, beaucoup des partis politiques, plus de 900 partis politiques ont été enregistrés au niveau des ministères de l'Intérieur, et ces partis politiques, généralement, leur autorité morale, le leader, aspire toujours à conquérir le pouvoir. Et une fois le pouvoir conquis, ils promettent avant même de conquérir le pouvoir et promettre à la population les bonheurs. Mais bien souvent, c'est la triste réalité. Les constats très amers.
Exactement, le constat est très amer parce que comme vous l'avez dit, il y a une double dimension que nos politiques n'intègrent pas. Il y a une dimension de conquête, c'est vrai, vous le soulignez, des conquêtes de pouvoir. Mais après la conquête, il y a l'exercice du pouvoir. Donc il y a la partie conquête du pouvoir et la partie exercice du pouvoir. Maintenant, pour l'exercer, c'est-à-dire pour faire la gestion, il faut disposer d'un document cadre qui encadre votre action comme gestionnaire. Et malheureusement, nos partis politiques ne sont pas assez élaborés, ne sont pas assez préparés pour préparer un projet qui l'aide à gérer lorsqu'ils sont au pouvoir. Oui. On travaille beaucoup dans la conquête. Vous allez voir, on est en pleine campagne électorale, après campagne déjà. Beaucoup sont dans une logique de conquête. Mais conquérir pour faire quoi?
Pour faire quoi?
Exactement.
Voilà. C'est ça la grande question d'ailleurs.
Conquérir pour faire quoi? Et c'est là où la question de l'offre est importante. Parce que l'offre, c'est votre document de travail, c'est votre plan d'action qui prépare votre partie gestion. Parce que vous présentez aux Congolais un document qui n'est pas simplement protocolaire, mais qui définit ce que vous pensez réaliser dès que vous arrivez au pouvoir. Or, comme nous ne préparons pas la gestion, comme nous ne préparons pas l'exercice du pouvoir, eh bien, généralement, on arrive au pouvoir et on se rend compte qu'on est démuni parce qu'on n'a pas préparé la gestion et on se met à tâtonner. Et donc, on passe les deux premières années à rechercher les projets qui sont dans les tiroirs, qui sont restés, à mettre en place l'équipe qui doit vous accompagner dans la mise en œuvre. Et puis, on se rend compte après qu'on est dans le tâtonnement habituel parce qu'on n'a pas préparé la problématique de l'offre qui est un élément important de gouvernance. Et voilà pourquoi nous avions pensé au niveau de Pôle Congo que le débat sur la qualité de l'offre était un débat très important. On va aller vers les présidentielles en décembre. Vous voyez des gens qui ont des ambitions, des conquêtes. Oui, je veux être candidat président, c'est très bien. Je veux être candidat député, c'est très bien. Mais pour faire quoi? Et donc, si quelqu'un vient devant vous avec ses ambitions, posez-lui la simple question. Oui, vous voulez être candidat président, j'en suis très heureux, mais vous voulez faire quoi concrètement pour moi? Et il doit vous dire, voilà, moi je veux que les Congolais demain puissent manger le poisson des Calémies. Et pour que ce poisson des Calémies puisse arriver à Kinshasa, nous allons faire ceci en 2 ans, en finançant ainsi, pour arriver à tel résultat. Et ce n'est qu'au bout de ce cheminement qu'on peut voter quelqu'un. Le drame chez nous, c'est que les politiques ont vidé les questions de fond, de l'offre, du débat politique, et on a remplacé par les pagnes, par les polos, par les bassins, les pains, et quelquefois par la mobilisation ethnique. Ça veut dire, je viens chez vous, je dis, je suis votre frère de la communauté, votez-moi simplement parce que je suis votre frère de la communauté. Et donc là, on exalte le tribalisme. Et
donc, mais comment expliquer que ce cycle n'arrête pas de perdurer? C'est-à-dire les mêmes personnes qui viennent procéder avec les mêmes méthodes et qui reviennent avec les mêmes méthodes et la population est toujours là?
C'est la population qui doit être exigeante, oui. De mon point de vue.
Oui.
En sciences politiques, on dit, les sociétés dites occidentales, par exemple, vous avez un problème d'offres en France, en Europe. Les politiques n'ont plus de nouvelles offres à donner. Conséquence, les citoyens ne s'identifient plus aux acteurs et ils cherchent les voies nouvelles, les extrêmes, extrême droite ou une voie syncrétique comme Macron. Par contre, dans les pays dits sous-développés, l'offre est inexistante et la population devrait être exigeante en termes d'offres. Et si on n'atteint pas ce niveau d'éveil citoyen, d'exigence citoyenne, pour que nous soyons, nous comme population, exigeants vis-à-vis des politiques, les politiques ne vont pas eux-mêmes avancer. Les politiques avancent lorsqu'ils se sentent menacés dans leurs intérêts. Ils s'adaptent aux nouvelles réalités. Mais cette réalité-là, c'est à la population de prendre conscience. Et ça passe par un travail d'éducation citoyenne, tel qu'on le fait à travers la radio, pour aider les gens à prendre conscience que les élections, c'est un moment d'échange d'offres et de demandes. L'offre, c'est le discours et les projets que l'acteur amène devant vous, qui devait être capable de juger, de critiquer, et donc de dialoguer avec lui. Ensuite, la demande, c'est votre vote qu'il sollicite, et vous ne le donnez que s'il apporte devant vous ou avec lui un projet qui correspond à vos aspirations, à vos attentes, et que vous
Et ce projet qui peut constituer un contrat social.
Exactement, c'est ça justement l'esprit du contrat social.
Oui, oui.
Ça veut dire le type qui vient devant vous, il sollicite votre voix, vous ne lui donnez votre voix que sur base d'un engagement pris autour d'un projet clair. Ça veut dire même un député a un projet législatif. Je vais aller au Parlement, voici mon projet de loi, ou ma proposition de loi, que j'entends amener, et qui répond à une préoccupation, qui est une préoccupation bien définie. Et donc c'est sur base de cet engagement-là que vous établissez un contrat social. C'est-à-dire nous vous votons pour que vous réalisiez ceci, chez nous. Et nous vous jugerons, c'est-à-dire nous avons un moyen, un élément, un outil de contrôle citoyen, nous vous jugerons sur le bas, c'est la base du fait que vous auriez réalisé ou non cet engagement-là. Ça permet d'asseoir notre politique autour des idées concrètes, autour des questions de gouvernance, et puis de tourner autour de la tribu. Vous venez dire, voilà, nous, notre problème ici, notre problème, c'est la sécurité, et nous voulons que votre mandature, si vous la preniez, soit au service de ce problème-là. Et le livre vous dira, voilà, moi, au Parlement, je vais amener telle initiative parlementaire, de contrôle ou de législation, pour répondre à ce défi-là, et donnez-moi 5 ans, Et jugez-moi à la fin de mon mandat.
Et ces contrats sociaux devraient être matérialisés à travers un document, ou bien c'est simplement un échange entre prenons un député et ses électeurs. Il faut un document.
Nous avons produit un document qui ne sert de document qu'à. Nous souhaitons que ces documents soient signés, que les élus viennent signer devant la population, que les politiques viennent signer devant la population, qu'importe les lieux, et qu'ils s'engagent. Pour que les citoyens disposent d'un outil de contrôle de l'action publique. La participation citoyenne, c'est pas uniquement de voter. Au Congo, nous avons cette grande faiblesse de penser que mon travail comme citoyen se limite quand j'ai voté et puis je peux rentrer dormir chez moi. Non. Voter n'est qu'une partie de la participation citoyenne. Ensuite, il y a le contrôle. Il n'y a pas que le contrôle parlementaire, parce que quand nous votons, nous ne transférons qu'une partie de notre souveraineté. Nous en gardons une autre. Ça veut dire que nous avons les capacités de faire le contrôle citoyen. C'est pour ça que la Constitution a prévenu les vacances parlementaires. Moi, j'aime même pas le mot vacances parlementaires. Ça donne le sentiment qu'on va se reposer.
Qu'on va se reposer.
Je préfère parler d'intercession. Parce que la Constitution a prévu les intercessions qui font partie du travail de l'élu. Ça veut dire rentrer vers sa base, dire ce qui a été fait au Parlement et prendre les éléments des propositions des citoyens pour le ramener à travers son rapport des vacances parlementaires. Et donc, c'est aux citoyens de s'approprier ce que la Constitution a donné comme élément de dialogue et de participation citoyenne par les vacances parlementaires pour garder un moyen de contrôle de l'action publique. Et donc, si on ne travaille pas à réveiller suffisamment les citoyens, à être plus exigeant en termes de qualité de discours, en qualité de l'offre, et de ne voter que lorsqu'on est convaincu des idées, non pas parce que il parle votre langue, parce qu'il a bien amené les ballons, il a bien amené les vareuses, il est venu vous inaugurer un pont à quelques 3 semaines des élections.
Et après il va disparaître.
Ce n'est pas ça qui fonde le sens de votre engagement. Votre engagement doit être projet contre vote. Et ce projet-là doit être coulé de telle sorte que vous ayez les capacités de le contrôler durant la législature.
Voilà, on revient à vous, Christian Moleka. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs où nous parlons de l'offre politique avec tous ces partis politiques. Aujourd'hui, en RDC, on en compte plus de 900 partis politiques, mais bien souvent, c'est le problème de l'offre politique qui n'est pas une offre de qualité. Et souvent, lorsque ces politiciens arrivent aux affaires, ils sont loin de tout ce que... Ils ont du mal à réaliser tout ce qu'ils ont promis à la population. Ils rivalisent plutôt d'acteurs dans la corruption, le clientélisme, l'égoïsme et l'enrichissement sans cause. Si vous voulez intervenir, vous voulez participer à ce magazine par les auditeurs, vous pouvez composer les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69.
Festival Sans Voix pour la Paix. Ensemble, faisons vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iossi à Goma, en marche de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la Paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Nous avons déjà en ligne Franck depuis Vienne en Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour notre cher frère Marcel, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la Radio Capi et aussi par les
autres. Franck, vous voulez vous déplacer un tout petit peu parce que là on a du mal à bien vous saisir. Si vous voulez bien vous déplacer un tout petit peu, peut-être que ça marchera mieux.
Là, ça va.
Voilà. Bon, allez-y, c'est pas net, mais allez-y, on va vraiment tendre l'oreille pour vous écouter. Allez-y Franck.
Oui, merci beaucoup. Je disais bonjour à vous, d'abord à tous vos collègues au studio, à tous les futurs auditeurs de la radio Papi et aussi à l'invité du jour.
Bonjour.
Merci beaucoup. Un pays comme la République démocratique du Congo, selon son format actuel, au regard de toutes les réalités, de toutes les zones de turbulence et de secousses qu'elle est en train de traverser, aurait plus besoin des industries, des usines, des transformations à ceci et cela, que de n'avoir qu'une pléthore de partis politiques qui, en réalité, ne servent vraiment à rien et qui, en réalité, n'ont aucun impact sur les vécus du quotidien. Puis, nous nous disons état de droit, nous aspirons à le devenir. Nous voulons bien qu'on dise de partout que nous avons la liberté d'expression, la liberté de mouvement, de créer des partis politiques. Mais personnellement, si je vois le nombre de ces partis politiques qui sont en train d'être créés et qui obtiennent des droits de fonctionnement, je suis en train de me demander si on est vraiment sur le droit chemin ou si c'est vraiment ce qui devait être fait. Et par rapport à ce que l'invité venait de dire, moi personnellement, je trouve que la faute, c'est aussi du côté de notre population. Parce que nous avons une population qui a encore un problème, qui a encore beaucoup de difficultés pour bien gouverner, pour bien se mettre à sa place afin de réclamer tous ses droits. Parce qu'un parti politique n'est pas seulement créé pour le simple plaisir de l'avoir. Un parti politique, si nous devons nous référer à l'un des penseurs classiques antiques, un parti politique est payé pour former les citoyens, pour accompagner, pour éduquer en fait. C'est pour arriver à éveiller des consciences des citoyens afin qu'ils se mettent à leur place et qu'ils répondent de leurs obligations et qu'ils se mettent à travailler pour le développement durable de leur vie et de leur vie. Mais malheureusement, dans les contextes qui sont plus coronés, les partis politiques ne sont pas créés pour éduquer les citoyens. Les partis politiques sont au contraire payés pour semer encore beaucoup de confusions. Parce que dans la plupart des cas, si nous devons nous mettre à analyser les différentes causes de certains conflits politiques et certains polémiques, ça part toujours de l'endroit de faire partie des forces parole de quel parti qui pense que c'est tout contraire, finalement, au lieu de viser les biens collectifs, on fait qu'envenimer la situation, on fait que développer des polémiques sérieuses.
Alors, dites-nous Franck, vous avez suivi l'invité qui est un politologue, également coordonnateur de politologue de la RDC, également membre du réseau Bana Congo. Alors, ce réseau a mené à des consultations populaires intitulées Tolingi Congo sur plusieurs sujets. Il y avait notamment la corruption, il y avait les processus électoraux, il y avait tout ce qui est lié à la sécurité, il y avait le social. Et selon le résultat de cette enquête, on a trouvé que la plupart de politiciens congolais, par rapport à l'offre politique, c'est pas une offre politique de qualité, simplement parce que il faut affaire, ces politiciens ne répondent pas aux besoins réels de la population. Alors, on a estimé qu'il faut, pour changer des choses, pour qu'on devienne un peu plus sérieux, qu'il y ait un contrat social, c'est-à-dire un engagement de politiciens par rapport à leur projet de société et que cela soit coulé sous forme de documents pour qu'on devienne quand même sérieux dans ce pays que plutôt de continuer toujours le même discours démagogique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je crois que tout citoyen averti, tout homme qui réfléchit ne pourrait que attester ce que l'invité a dit et tel que vous l'avez explicité. Parce que le problème, on adhère en vue de quoi? On adhère pourquoi dans un parti politique? Et on adhère sur base de quoi? Parce que avant d'adhérer au sein d'un parti politique, le parti doit vous présenter son projet social. Et c'est sur base de ce projet social, c'est sur base de cette analyse qu'on se rend compte que mes attitudes, mes attentes conviennent avec ce parti, ce que ce parti politique est en train de nous offrir comme projet social. Mais malheureusement, dans le contexte congolais, malheureusement, dans notre contexte typiquement congolais, au lieu d'adhérer sur base de contrat social, c'est plus des calculs ethno-communautaristes, c'est le tribalisme, le fanatisme, c'était Yaya de mon quartier, c'est quelqu'un qui est de mon obédience, on a grandi ensemble, et on vient parfois recruter des membres comme ça, sans même que les intéressés ne comprennent
qu'ils sont membres de ces partis, de ces partis politiques-là. Et quand, par exemple, maintenant, on discute avec certains amis qui veulent postuler à la députation nationale ou bien provinciale, j'arrive parfois à poser des questions à certains. Vous avez quel projet social? Il dit non, on veut seulement donner un deuxième mandat au chef d'État. Mais mon ami Marcel, quelqu'un qui dit qu'il veut postuler pour donner seulement un deuxième mandat à un chef d'État, est-ce que c'est vraiment un candidat qu'on peut recommander pour des échéances électorales? Et là, je crois que je rejoins l'invité qui dit c'est aussi la part, la responsabilité des citoyens. Les citoyens devraient vraiment se montrer plus exigeants. Et moi, je trouve que le travail que nous faisons sur vos ondes, c'est juste pour arriver à éveiller la conscience de nos concitoyens. Parfois, il y en a qui nous demandent, mais vous intervenez pourquoi depuis autant d'années? Qu'est-ce que vous avez pu changer? Mais on va laisser ce pays dans quel état, avec quelle mentalité? Parce que nous avons une population presque qui peut se laisser manipuler à temps et à contre-temps. Le matin, il est derrière tel, à midi, il change de camp, et le soir. C'est aussi un problème de conviction citoyenne. Et nous avons une population qui ne sait même pas se rendre compte de ses prérogatives, de ses droits, de ses devoirs. Une population qui se contente des miettes au lieu d'exiger ce qui lui est vraiment, ce qui lui appartient. Et c'est comme ça que la plupart de nos politiciens, sachant qu'ils sont en face d'une population qui n'est pas convenablement informée, qui n'est pas consciente de ses responsabilités, c'est comme ça que n'importe qui peut venir les drainer comme il veut, pourvu qu'ils s'en servent comme marchepied, comme tremplin, et dès qu'il arrive, dès qu'il accède au pouvoir, il les oublie, il les ignore. Voilà. Parce qu'au lieu de venir avec des projets, des sociétés, avec des orientations, je veux ça pour vous, voilà ce que je vais chercher à apporter comme innovation dans les systèmes politiques de notre pays. On amène des sacs de sel, des sachets de sucre, on amène des ballons, des maillots, on amène des pagnes pour les mamans, et on organise un petit tournoi de quartier et les gens pensent que ça s'arrête là-bas. Voilà. Le fait de la politique, c'est aussi d'abord arriver à secouer son cerveau. C'est arriver à se servir de ses connaissances scientifiques pour les mettre à la disposition de la société. Voilà. Mais quand maintenant, on se sert juste du fanatisme, oui.
Merci Franck, je crois que vous avez le temps de commenter ces sujets. Merci de réagir depuis Vienne en Autriche. C'est toujours un plaisir de vous savoir comme auditeur fidèle de ce magazine et parole aux auditeurs. Bonne journée à vous à Vienne, Franck. Alors on va lire cette réaction sur la page Facebook Parole aux auditeurs. C'est celle de Xavier Safeli depuis Lubumbashi. Le pluralisme politique ou la prolifération des partis politiques en fait en RDC est en fait en RDC. Mais la question qu'on peut se poser est celle de savoir si les partis partis politiques peuvent se prêter de leur raison à l'usage public. Là, j'ai pas bien compris. Je suis en train de découvrir la réaction en même temps que vous. Aujourd'hui, Lubumbashi, certains partis politiques régionaux violent des femmes pendant la journée, extorquent de biens d'autrui, cassent des biens des citoyens congolais et non des partis politiques. Et l'État le regarde sans rien faire. De leaders créent des partis politiques pour des positionnements politiques ayant pour projet de sauter, de faire voter celui qui n'est pas de leur parti politique. Le problème, c'est de créer un parti politique sans conviction politique. Voilà, ça c'est Xavier Safeli. Et puis il y a également cette réaction que je peux lire rapidement, c'est celle de Valo Sivwadi depuis Lubumbashi. Bonjour ma radio, t'es ravi du sujet, vraiment c'est regrettable. Plus de 900 partis politiques sont enregistrés et dans ce pays, alors que ces politiciens ne cherchent que de leurs propres intérêts. Voilà, ça c'est Valo Sivwadi qui a régi depuis Lubumbashi. On revient au standard, on me fait signe qu'il y a Trésor qui appelle depuis Kinshasa. Bonjour Trésor. Il me semble qu'il y a quelques soucis avec la ligne des trésors. On pourra le retrouver un peu plus tard. Alors, je reviens à mon invité dans ce studio, Christian. Vous êtes en ligne, un trésor? Non, il n'est pas toujours en ligne. Alors, vous avez suivi Franck depuis Vienne qui a appuyé, en tout cas, cette nouvelle vision de voir les choses par rapport à tout ce qu'il y a comme discours démagogique de politiciens. Mais vous pensez vraiment que la faisabilité de ces genres de contrats sociale pour ceux qui veulent s'engager dans la politique et qui ont des projets pour la population, ça peut passer facilement.
Nous sommes conscients que c'est une tâche énorme,
oui.
Que ce n'est pas quelque chose à voir uniquement dans une perspective court-termiste, qu'il faut travailler durablement pour avoir des résultats escomptés. Mais nous avons commencé et nous pensons que d'autres Congolais vont nous rejoindre pour que nous en fassions un travail quotidien et que nous puissions atteindre une masse critique. Parce que le vrai problème, c'est la masse critique. Lorsque vous aurez une majorité des Congolais qui vont réfléchir de cette façon-là, alors cette masse critique-là pourra faire basculer les choses. Et donc c'est pas impossible, il faut travailler et nous sommes convaincus que beaucoup, quand j'entends des gens à partir de Vienne comme Franck parler, je prends conscience qu'il y a énormément de Congolais qui pensent comme ça. Peut-être qu'il y a problème de synergie, problème de mise en commun d'énergie pour que vous fassiez un faisceau assez puissant, mais énormément de Congolais qui partagent cette vision qu'on peut pas continuer à faire de la politique comme ça. Parce que quand nous faisons la politique comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a le plus de moyens financiers, c'est celui qui gagne les élections. En fait, nous construisons ce qu'on appelle en sens politique une plutocratie, une démocratie basée sur l'argent. Ça veut dire, je suis un homme d'affaires, je vends ma parcelle, et puis je viens sur terrain, je jette mon argent parce qu'il faut faire il faut jeter un pont, il faut faire ceci, faire cela. Mais comme j'ai vendu ma parcelle, dès que je suis au Parlement,
il faut rapidement récupérer ma parcelle. Il n'y a pas de temps perdu.
Et donc je vais monnayer l'élection du gouverneur, je vais monnayer les sénatoriales pour récupérer mon argent et m'acheter ma parcelle. Je vais monnayer toute mon activité parlementaire pour récupérer ma parcelle, peut-être pour en avoir deux autres. Et donc nous construisons un système, en fait, qui nous est préjudiciable à nous tous, y compris pour l'élu. Parce que quand l'élu sait qu'il a en face de lui des gens qui vont demander des ressources financières, tout ce qu'il fait durant la mandature, c'est d'accumuler l'argent qu'il va aller en 2023 jeter sur le terrain pour revenir au pouvoir. Et donc, ce ne sera pas malheureusement des débats de fond. Ce sera un débat qui tournera autour de celui qui a le plus de ressources. Et cette démocratie-là, elle est faussée. Parce qu'elle ne permet pas, y compris pour les élus et pour les citoyens, d'aborder les problématiques de fond qui sont les projets, le développement. Et ça passe par des idées et pas par l'argent. Je crois qu'à un moment donné, il faut que les populations prennent conscience que c'est à eux que nous donnons les leviers. Parce que la Constitution a dit que le souverain primaire, c'est le peuple.
Et il ne faut plus attendre pour prendre conscience. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience. Autrement, on va perdre tout le temps.
Et ça ne demande pas, ça ne demande pas un grand effort. Ça veut dire que nous sommes en période préélectorale, nous irons vers les élections. Le type qui sollicite ta voix, qui veut que tu le votes, qu'est-ce qu'il t'offre comme projet? C'est aussi simple que ça. Demandez-lui, monsieur, je suis très heureux, je voudrais bien te voter, mais c'est quoi ton projet?
Voilà, il y a un auditeur en ligne, Espérant Jardel, on va l'écouter. Bonjour Espérant Jardel.
Bonjour la radio Capi, bonjour à tous les auditeurs et à l'invité.
Bonjour, merci Jardel.
On vous écoute.
Ouais, mais d'ailleurs, avant toute chose, je vais d'abord essayer d'évoquer quelque chose, parce que les hommes politiques aujourd'hui, avec la création massive des partis politiques, c'est comme s'ils investissent en long terme, dans le sens que, d'ailleurs, plus loin, vous verrez que les hommes politiques, avant même les échéances des électorales, ils commencent à vendre les partis politiques. Donc, il y a même les partis mallettes, où ces partis-là n'ont même pas un siège. Mais au fur et à mesure qu'on s'approche aux élections, il est tout prêt à vendre ces partis politiques-là. Et maintenant, je voulais dire quoi? La RDC compte notamment à ce jour plus de 900 partis politiques et reconnus par le ministère de l'Intérieur, mais aussi ou bien certains partis politiques qui ne sont pas reconnus par le ministère pour diverses raisons qu'on ignore. Mais à ce sujet, on constate que dans 900 partis politiques qu'a la République démocratique du Congo à ce jour, nous avons 900 idéologies. Maintenant, avec 900 idéologies, qu'est-ce qu'on est censé faire? Où nous va-t-on? Est-ce qu'on se limite par là ou on doit faire encore plus? Parce que vous constaterez avec moi...
Il y a des partis politiques qui font de regroupements, peut-être en fonction de leur idéologie.
Mais je suis en train d'arriver là-bas parce que si nous avons 900 idéologies, mais quand on s'approche juste avant les élections, vous verrez que ces partis politiques se regroupent en regroupements politiques pour des raisons électorales. Mais après les échéances électorales, chaque parti politique commence à faire ses affaires. Et vous trouverez que on soutire de l'argent, les partis politiques soutirent de l'argent, mais l'affaire des regroupements politiques reste historique. Vous avez vu avec nous ici les séances actuelles, quant aux députés nationaux, chacun a fait ce qu'il voulait et a quitté même les partis politiques. Donc, ils sont censés être dans les partis politiques quand il y a ou avant ou pendant les élections. Mais pendant les élections, chacun devient un électron libre. Donc, à ce stade, on ne peut rien espérer aux députés nationaux, aux partis politiques notamment, sinon si les hommes politiques investissaient dans l'entrepreneuriat plus comme dans les partis politiques, dans ces pays, il n'y aurait jamais eu de chômage. Mais quand un homme politique crée un parti politique, il sait très bien que c'est un investissement à long terme. Avant 5 ans, après dans 4 ans, avant la fin du mandat, il sera appelé à pouvoir être financé de gauche à droite pour conquérir le pouvoir. Et après le pouvoir, il n'y aura rien.
Alors, espérons, je vous pose la même question telle que je l'ai posée à Franck, qui a réagi depuis Vienne, en Autriche. Alors, il y a le réseau Banacongo, je l'ai dit, qui ont mené des consultations populaires intitulées Tolingi Congo, et il y avait beaucoup de thèmes qui ont été abordés. C'était des consultations qui ont été réalisées à travers tous les pays. Et pour ce qui est de l'offre politique, parce qu'on se rend compte que apparemment en RDC les avancées pour ce qui est du processus électoral, il y a des avancées, mais c'est pas vraiment des avancées très très notables. Il y a ensemble, on a des fois l'impression qu'on fait du surpé. Alors pour éviter cette espèce de discours démagogique, alors cette enquête, il y a eu une nouvelle façon de voir les choses. On a estimé pour les députés, par exemple, tous ceux qui aspirent à conquérir le pouvoir, il faut un projet social. Et ces projets, un contrat social qui doit être matérialisé peut-être par un document pour qu'à tout moment, ces gens puissent se rappeler, ces politiciens puissent se rappeler qu'il y a un document pour lequel vous avez un projet que vous avez promis à la population qu'il faut absolument réaliser. Et qu'est-ce que vous pensez de cela?
Ouais, c'est vraiment une réflexion encore. C'est très bon et j'apprécie beaucoup les compatriotes qui se sont mis à réfléchir comme ça. Mais pour moi, il y a quand même les avancées, contrairement à d'autres pays dans notre continent ici, parce que par le simple fait que passer première étape, deuxième étape, aujourd'hui, quatrième scrutin, c'est quelque chose de très important. J'apprécie beaucoup. L'offre politique, c'est par rapport à ce que les députés ou l'homme politique propose avant les élections. Mais ils ne sont plus redevables. Ils sont devenus électrons libres au moment où il a déjà le mandat. Et comme ils ont déjà les immunités parlementaires, aucun d'entre eux, même s'il est poursuivi, personne ne va livrer l'autre. Mais en ce stade, ce qui peut faire en sorte que nous, on puisse se retrouver, notamment la population congolaise, il faut la révision constitutionnelle à ce niveau. On doit notamment radier les histoires des multiples partis politiques. Nous ne pouvons pas aller à 1000 partis politiques. Parce qu'avec 1000 partis politiques, nous avons 1000 idéologies, ce qui est inconcevable dans d'autres pays. Nous devons avoir de gauche et de droite.
Merci. Merci, Espérant. Vous avez parlé de la redevabilité, c'est un des sujets qui vont en tout cas aborder au cours de nos prochaines émissions. C'est très très important d'insister sur la redevabilité parce que lorsqu'on gère les affaires publiques, il faut jamais jamais oublier qu'on est redevable. Merci, Espérant. D'avoir réagi. On poursuit avec d'autres réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Il y a celle de Choukourou Ramazani qui dit ceci: tant que nous continuerons à vivre dans cette situation, le Congo ne sera jamais développé car la création de partis politiques est accompagnée par des idées anti-développement. À cet effet, je suggérerai la création de deux blocs politiques, c'est-à-dire le bloc des républicains et des démocrates. Et également cette réaction de Siméon Kambali depuis la ville de Goma: les partis politiques dans notre pays naissent comme des champignons et surtout sans vision, encore moins une idéologie. Nous devons limiter l'enregistrement des partis politiques. Il faut une loi dans ce pays qui crée un parti politique doit aussi créer une entreprise. Il faut une loi dans ce pays qui crée un parti politique doit aussi créer une entreprise ou carrément limiter ce nombre de partis et les mettre dans trois groupes selon leurs objectifs cash, FCC, Lamouka, pour bien gérer nos partis. Et les soi-disant leaders ne doivent pas changer de camp selon l'opportunité qui se présente, quand en réalité ces partis politiques ne servent pas la population, servent plutôt l'intérêt de leurs autorités morales, et d'autres partis doivent être supprimés car ce sont des partis mal-être, les partis des poches. Voilà, là c'était Siméon qui nous a écrit depuis Goma. On me fait signe que ça marche cette fois-ci pour la ligne des trésors qui est ici à Kinshasa. Bonjour Trésor.
Bonjour Radio Capi.
Ouais, merci de nous rejoindre dans ce numéro des paroles aux auditeurs. Et on évoque ces sujets sur l'offre politique pour ce qui est des partis politiques ou des politiciens ici en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela?
Bien, la situation, comme les autres l'ont dit, est déplorable du fait que il y a d'abord, au niveau du cadre légal, pas de contraintes pour la création de partis politiques, ce qui facilite la prolifération de partis, mais aussi, de l'autre côté, c'est même au niveau de ces du fonctionnement, du fondement et du fonctionnement de ces partis politiques qui dépendent de la poche de leur autorité de référence, communément appelée autorité morale, et non des militants, et par conséquent, la main qui donne, c'est la main qui domine. Et la conséquence logique aussi de ce que je viens de citer est que la plupart de ces partis n'ont pas d'idéologie, ou presque. On voit facilement des alliances entre les partis politiques d'idéologie diamétralement opposées, et on voit des divisions entre les partis politiques de même idéologie. Notamment, on a des partis qui scandent tous la social-démocratie, mais qui sont opposés. Il y a des partis qui se disent des droites, des partis libéraux, qui coalisent avec des partis de gauche, des partis socialistes. Donc on est dans une situation assez atypique. Et il n'y a pas la formation des membres de partis politiques. Et la majorité des militants, en tout cas à 90%, ont pour seule motivation lors de leur adhésion que des ambitions professionnelles, c'est-à-dire avoir un boulot ou bien avoir un plan de promotion de carrière, c'est-à-dire avoir des promotions, des nominations, et ainsi de suite. Et au sein de ces partis, on sent qu'il n'y a même pas de formation idéologique, même pas de formation sur la gouvernance publique. Alors qu'ailleurs, les partis politiques détiennent des holdings dans des entreprises du secteur privé, ce qui leur facilite d'avoir des entreprises où ils ont leur cadre du parti qui gouverne et qui contribue à l'économie nationale, et lorsqu'ils ont le pouvoir, facilement, ils puisent dans la gibecière de leurs ressources humaines, qui est déjà expérimentée et compétente et apte à gérer la chose publique. Alors qu'ici, on est plus dans les clientélismes, on est plus dans les népotismes, le régionalisme, pour vider les caisses de l'État, et par conséquent, freiner l'élan du bon fonctionnement des services publics en mettant en nommant différentes personnes, différents animateurs qui n'ont ni compétences ni formation adéquate. Et la situation est tellement déplorable. Alors si rapidement on peut proposer des pistes de solutions, ça sera d'abord une loi qui doit en tout cas limiter, donner plus de contraintes pour la création d'un parti politique. Et de l'autre côté, il faudra que la société civile aussi s'active avec assez de propositions, aussi des sensibilisations de la population qui, dans la majeure partie, n'est que utilisée comme escalier, marchepied. Marchepied, on lui vend des rêves, on lui vend du vent. À sensibiliser la population, à s'auto-prendre en charge, à prendre conscience d'abord de cette manipulation, mais aussi à s'auto-prendre en charge au travers de l'entrepreneuriat. Donc, je pense de manière assez ramassée, voilà les petites contributions.
Mais dites-nous, dites-nous Trésor, mais là déjà, cette idée hein, qui est en tout cas qui est en train d'être développée par le réseau Banacongo, c'est-à-dire d'un contrat social qui peut constituer un outil des changements de gouvernance politique avec notamment des vrais programmes politiques qui répondent de véritables Pona Congo, ces réseaux Pona Congo, hein, excusez-moi, et qui essaient de mettre en place cette idée qu'il faut absolument essayer de faire en sorte qu'il y ait un contrat social qui puisse lier les politiciens par rapport à leur projet des sociétés pour qu'enfin qu'ils puissent pas s'y dérober. Qu'est-ce que vous en pensez?
Louable, mais il y a à se poser aussi la question de savoir ces contrats sociaux aura quelle base juridique, hein, pour c'est quoi la contrainte pour que on évalue l'efficacité de ces contrats, parce que tout politicien, tout parti politique qui naît amène que des bonnes intentions, n'a que des bonnes intentions, il y a tout un chapelet de bonnes intentions, mais dans la faisabilité il n'y a rien. Aussi longtemps que la contrainte ne sera pas légale, les contraintes ne sera pas légales, on sera toujours dans ce qu'on a toujours vécu. Moi, je pense qu'il faut plus sensibiliser la population qui est les souverains primaires à s'auto-prendre en charge. C'est-à-dire, voilà, il peut y avoir un contrat social, vous dites que nous, ici, en tout cas, pour nous représenter, vous devez être à mesure de faire tel lobbying pour tel problème. Mais après, au cours du mandat, est-ce qu'il y a un scrutin révocatoire qui est organisé? Ça aussi, c'est une proposition qu'on pourrait aussi... c'est une piste qu'on pourrait exploiter. Comment légaliser en tout cas le scrutin révocatoire? C'est-à-dire, vous avez un représentant qui, au bout d'une année, s'est avéré incompétent, comme il y en a d'autres même qui ont été sanctionnés à l'Assemblée pour absentéisme. Ils touchent les émoluments des députés, mais ils ne partent pas au boulot. Ils ne travaillent pas. Ils ne représentent pas la population. Et maintenant, la population est contrainte d'attendre le prochain scrutin qui viendra dans 5 ans. Moi, je pense qu'il faudrait aussi qu'on pense à ça. Et ça, c'est une loi qui aura du mal à passer au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, il faudra vraiment que la société civile porte cette loi et puisse faire des mobilisations de grande envergure pour qu'on puisse avoir en RDC un scrutin révocatoire, c'est-à-dire au sein d'une circonscription électorale, lorsque la population constate que le contrat social avec notre représentant n'est pas, ou même avec des dirigeants de l'exécutif, par exemple des gouverneurs, on voit des maires de la ville et on voit des bourgmestres qui ont été nommés et qui ne font absolument rien et qui se disent pas rédévables à la population.
Merci.
Rédévables.
Voilà, merci Trésor Dimanja d'avoir réagi depuis Kinshasa, Christian Bolika.
Très très riche contribution. Je crois que nous avons partagé d'ailleurs au niveau de Pona Congo toute cette réflexion et la complexité, c'est que l'approche légale va demander de retourner vers les mêmes élus qu'on veut contrôler pour leur demander de se faire harakiri. Et franchement, les élus ne se feront pas harakiri. Je peux vous donner un élément. Lorsqu'on a proposé les amendements à la loi électorale, il y a des propositions apportées par la société civile, notamment par le groupe du G13, sur le non-alignement des membres des familles comme suppléants. Les élus ont refusé de faire passer cette disposition parce que ça contraignait certains intérêts particuliers. Donc c'est difficile d'attendre des élus qu'ils s'auto-censurent eux-mêmes ou ce qui se fasse harakiri par une approche légale. C'est pourquoi nous avons pensé qu'au-delà de l'approche légale, je suis d'accord pour le scrutin révocatoire, je suis totalement d'accord pour ça, qu'il faudrait travailler à avoir, je dirais, plus de mobilisation citoyenne. Le contrat social, ce n'est qu'un outil. Parce que quand vous dites aux citoyens, c'est prendre en charge, il faut leur donner un vecteur. Et nous pensons que le vecteur, c'est le contrat. Parce que là, ils ont un document, un élément symbolique, un élément physique qui peut être fédérateur. C'est un support qui peut permettre de fédérer les personnes autour d'un point de partage, qui est par exemple, nous au niveau de la circonscription de Tchangou, voici notre préoccupation majeure, qui est prioritaire, et sur lequel nous pensons qu'un élu ou un dirigeant doit impérativement s'appliquer. Donc le contrat, ça permet de fédérer cette auto-prise en charge autour d'un outil symbolique qui permet de concilier à gouvernant et gouverné. Ensuite, quelle pression. Il n'est pas forcément légal, il est moral et symbolique. Parce que dès que les citoyens arriveront à s'approprier cette démarche et qui vont, le, comme vous dites, prendre conscience. Mais c'est un moyen de pression. Parce que l'élu sait qu'il a pris un engagement, qu'il a signé, et qu'au bout d'un temps, il reviendra pour dire aux gens, je ne l'ai pas fait. J'ai signé devant vous et je ne l'ai pas fait. Il faudrait expliquer pourquoi tu ne l'as pas fait. Et donc, il faut travailler à cette prise de conscience, à mettre en place ces moyens de pression sociale qui poussent les élus à s'améliorer. On sait que le défi est énorme, mais à s'améliorer, à s'amender et à prendre la bonne direction. Pour nous, dès l'instant où nous allons prendre le bon virage, eh bien, en renforcer par exemple par un scrutin révocatoire, ce qui serait une très bonne chose, nous nous sommes partants. Maintenant, quitte à explorer avec de telles idées, avec d'autres acteurs de société civile, comment on peut travailler à une prochaine modification de la loi, sachant que nos élus ne vont pas facilement s'autocensurer.
Voilà, on va prendre le tout dernier auditeur, Marie-Paul Lawar, qui nous appelle, je pense bien, depuis Kisangani. Marie-Paul Lawar, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, il faudrait d'abord rappeler que la RDC est un pays qui applique la conception de la démocratie pluraliste. Et dans cette conception, il y a bel et bien les fondamentaux, notamment on trouve la liberté, la majorité, les pluralismes politiques. Il y a également les droits de l'opposition, mais aussi il y a ce qu'on peut appeler la séparation des pouvoirs. Et tout ça, c'est justement pour rester dans cette conception-là. Mais on doit savoir ce que nous constatons plutôt que la RDC est dans l'hyperbole par rapport au pluralisme politique. Et du coup, on a un nombre exponentiel, bien évidemment, des partis politiques. Ce qui fait d'ailleurs que nous puissions avoir une difficulté par rapport au fait qu'on ne sait pas quel est ce parti qui a la majorité parlementaire, ainsi de suite. Et du coup, on est dans une histoire qui dérange pratiquement la gouvernance. Et déjà, cet état de cause, lorsque vous avez déjà plus de 900 partis politiques, alors qu'ils tiennent à pouvoir ne sont qu'à 500, il se pose un véritable problème. Voilà aujourd'hui, parce que tout le monde est devenu parlementaire, il y a des engagements que les gens prennent et ils ne sont pas en mesure de répondre à ces engagements, d'autant plus qu'il y a des alliances qui sont vraiment indigestes, qui sont justement apolitiques et qui se font au détriment de la population. Et les signes que donne la RDC, ce n'est pas un vrai signe de la démocratie. Au-delà du fait que dans ce système, il y a tous ces éléments, on doit avoir le pluralisme politique, mais nous sommes là dans des extrémités. Avec les extrémités, nous avons ce genre de difficultés et où la gouvernance pose problème. Et vous voyez même les débats qui sont engagés au sein de l'hémicycle. Un débat qui nécessite absolument qu'on puisse soudoyer un peu les gens pour qu'une décision soit passée. Et même les gouvernants, ceux qui sont au pouvoir, le fait qu'ils n'ont pas la majorité parlementaire, et nous avons déjà des problèmes pour avoir un premier ministre, parce que le premier ministre, selon la constitution de la RDC, doit sortir de la majorité parlementaire ou du parti qui a la majorité parlementaire. On a toujours, il faut faire des alliances, et gestes, il faut faire des alliances qui demandent à ce que des gens font face à des débauchages, et les uns les autres, au lendemain, ils sont dans tel parti, dans l'autre parti, et du coup, les peuples ne se retrouvent pas dans ces jeux-là qui est purement entre guillemets démocratique, mais dont les fondamentaux ne permettent
pas que
les choses se passent.
Alors, Marie-Paul, oui. Rapidement, les peuples ne se retrouvent pas. Voilà, il y a cette idée avec le réseau Pona Congo qui a estimé qu'il faut un contrat social qui peut être matérialisé à travers un document pour contraindre ces politiciens, tous ces dirigeants, à respecter leur projet social, bien les promesses faites à la population. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement, 30 secondes?
Oui, mais comment on parle des contrats sociaux, est-ce que même les ministères qui enregistrent les partis politiques prennent le temps de vérifier vraiment les programmes et les idées que les partis politiques font valoir comme des idées fondamentales de la gouvernance? Non, on ne fait pas, on fait des choses de manière politique et du coup nous sommes tombés dans ces gens, des choses qui nous permettent pas avancer. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, parce que la politique, les pouvoirs, c'est aussi un contrat social, on doit passer par là. Voilà pourquoi je propose qu'on puisse passer à la refondation, à la redynamisation de la politique ou des pouvoirs en RDC pour que nous puissions réellement et que les politiques et les gouvernants puissent travailler pour le bien-être des gouvernés. Et voilà. Mais si on évolue dans ce genre de choses,
merci.
Nous allons toujours constater que les autres vont travailler pour leur vaste au lieu de temps.
Voilà, merci Marie-Paul Awa depuis Kisangani. On va conclure avec notre invité Christian Moleka. Il faut que la population devienne plus exigeante.
Exigeante. Nous avons besoin d'une population exigeante. Il n'y a pas de démocratie sans exigence. Les pays que nous envions, il n'y a qu'à suivre les médias. Ça passe pas un mois sans que les gens battent les pavés. Hein? Les Black Lives Matter, des gens qui sortent dans la rue. Toutes les victoires sociales, les victoires politiques sont les fruits de lutte sociale. Et il ne faut pas qu'on pense qu'on va nous donner une démocratie sous la table. Il faut que le peuple soit à même de mener des luttes sociales qui fassent avancer la démocratie et ça demande de l'exigence. Ça passe par les élections également.
Merci Christian Moleka. Je rappelle que vous êtes politologue, coordonnateur de politologue de la RDC. Vous êtes également membre de l'ASBL Pona Congo. C'est un plaisir de vous avoir dans ces studios. On espère vous retrouver prochainement.
C'est moi qui me remercie pour l'invitation.
C'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro des paroles aux auditeurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en onde, à Bléchinani qui l'a réalisé, coordonné la présentation. C'était Marcel Gomobala. Très bientôt pour un autre numéro de votre magazine d'échange citoyen Paroles aux auditeurs. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.